France Inter.
C'est la bande originale. Oui, Leïla Kadouboudadi avec Lisa Delmoitier, Emma Beaujean. Julien Santini, Tony Bossureau, Daniel Morin et nos invités Rebecca Marlin et Pascal Arbillon.
Je suis venu aussi ce matin.
Quelle belle journée. Mais pourquoi t'es venu? Nous allons parler des Dionnes, une série qu'on a eu la chance de voir intégralement, qui s'appelle Les Dionnes, donc sur Netflix. Ça a commencé hier. Vous pouvez binger d'ailleurs comme nous. Créée par Karine Prévost et Olivier Rosenberg, qui joue également dans cette série avec des avec des folies. Avec c'est très féminin et même féministe comme série. Comment ça va, Pascal et Rebecca? D'abord, un premier bonjour.
On va très bien, on est très très très, très heureuse que vous ayez tout bingé. On a fait pareil.
Je vous préviens, je vais faire un tour de table et vous aurez forcément la même question, puisque le point de départ de cette série, ce sont des filles qui sont dans la galère du quotidien et qui se retrouvent non seulement à être hors la loi et à faire des braquages, mais c'est même votre personnage, Rebecca, qui dit, attendez, moi je travaille dans une banque, vous n'avez qu'à braquer ma banque, j'ai tous les repères, je sais exactement qui a la carte, qui a le bip, à quelle heure il faut venir pour prendre la maille. Donc, petit tour de table. Sans aller jusqu'à un cambriolage, évidemment.
Ah, dommage.
Quel est le truc le plus border, le plus border, vas-y, le plus border que vous ayez fait dans votre vie sur l'illégalité, on va dire.
Voilà, on a le droit d'en parler comme ça.
C'est à prescription. C'est à prescription. C'est à prescription. Si là, t'es encore sous le coup de la loi, non. Non.
Si c'était hier soir, non.
Évite. Lisa.
J'ai volé.
L'orange du marchand.
J'ai volé du saumon fumé, beaucoup.
Beaucoup.
C'est pas pareil.
Beaucoup régulièrement. Une tranche par mois.
5 kilos. Dans la poche.
J'ai un gros manteau.
Dans les livres et la bouffe.
Ça, c'est le pire truc que t'aies fait.
Ouais, mais c'est le truc un peu cher.
Ok.
Ouais.
Moi, j'ai fait un truc, mais c'est un peu crado. C'était pour aider ma maman, qui, elle, est quelqu'un qui veut pas se venger, qui est toujours très respectueuse et tout. Et un jour, j'ai mis une serviette hygiénique sale sur le pare-brise d'un monsieur.
J'aime bien.
Je me suis dit.
J'aime bien, parce qu'il avait pas été gentil avec ta maman.
Évidemment.
Daniel.
On va faire des prélèvements ADN quand même pour savoir qui.
Faut mélanger le sang, comme dans la série.
Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une sorte d'ADN aussi dans la série.
Bien sûr. Et l'ADN?
Leïla?
Attends, je réfléchis, pardon, j'y arrive pas.
Moi, j'ai Nagui.
Alors, bien, bref, Julien, c'est que toi, la question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as fait de légal dans ta vie? Parce que dans le.
Rien de Rebecca, au blague de Nagui.
Oui, elle est bonne cliente.
Alors, moi, en fait, c'était en Corse. Dans les années un peu 90, Leïla le sait, ce qu'on appelait les nuits bleues, quand
oui,
ça
bon,
plastiquait
après
à bloc.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, nous?
Elle va mettre la barre, il va
J'ai pas plastiqué moi, Rebecca, mais avec mon père. Pascal, pardon.
Je t'appelle Pascal.
Et en fait, c'était avec la banque de France à Bastia.
Ah, donc ça a vraiment un rapport avec la série, alors, ok.
Exactement.
T'as fait un casse?
C'est pas pas vraiment un casse. Je tente de faire une blague que je n'ai pas de.
T'as pacifié?
J'ai pas de flûte.
T'as pacifié?
Peut-être.
Mais
quoi. Olaf. Non, je crois pas.
Moi, plus jeune, j'ai conduit en ayant trop bu et voilà. Et je regrette vraiment de l'avoir fait.
Ah ouais, ça c'est vrai.
Mais c'est pire quand la loi, c'est très con.
Oui, mais quand t'es jeune.
Ouais.
Alors.
Moi, j'ai failli faire un truc répréhensible, mais je l'ai pas fait.
Vas-y.
Je suis pas encore arrivé.
Si on
peut attendre.
Vas-y. Oh la faillotte. La grosse faillotte.
Vas-y. Non mais c'est horrible. Parce que j'ai vraiment rien fait en fait. J'ai volé un rouge à lèvres. Mais j'ai failli mettre un médicament pour faire dormir ma grand-mère que je n'aimais pas la nuit. Je la détestais.
Ok, ça c'est
ma grand-mère paternelle, et je ne l'ai pas fait.
Rebecca?
C'est pas bien.
Et moi?
Non, c'est pas bien.
J'ai.
Enfin, endormir quelqu'un, c'est pas illégal.
Après le plastique et l'assassinat. Des slips chez H&M, enfin des slips, des culottes. Oh. Chez H&M pour ma meilleure copine, on était ados et je les ai
fait. Ça aurait été drôle de les voler pour ton mec, c'est ça?
Oui, je les ai glissés dans mon parapluie. Enfin, je les ai fait tomber dans mon parapluie. Ah oui, je pensais que c'était hyper discret. C'était un grand parapluie Cannes. Bon, déjà, qu'est-ce que je faisais avec Cannes? J'étais ado.
Surtout qu'il était transparent. C'est ça qui était
et je fais tomber les slips comme ça dans mon parapluie. Et c'était l'heure de fermeture du H&M dans les Halles à Paris. Et j'ai et le je pensais que tout allait. Et on passe. On
ne sort
même pas, le gars, bien, le vigile nous a stoppé. Il fait, vous me sortez tout, les slips, les lunettes. Ah oui, il y avait les lunettes de soleil aussi. Et moi, je jette le parapluie. Oh, donc j'ai plus rien, mais je me fais emporter dans la cabine pour les voleurs.
Fouille.
Ouais, pour les fouilles. Et j'avais plus rien parce que j'avais balancé le parapluie.
Oh là là.
Et c'était horrible. Et j'ai pleuré. J'ai dit, ça nous servira de leçon.
Ce qui est vrai.
Voilà. Ils ont appelé les parents ou pas?
J'ai réussi à nous.
Je rappelle que tout ce que l'on raconte, ce n'est pas bien, évidemment. Oui. Ne le faites pas chez vous, Daniel Morin.
Moi, j'ai volé de l'argent à un handicapé.
Le pire. Non, non, yes.
Alors, c'est-à-dire que tu n'as pas donné au Téléthon, en fait, c'est ça. Ok.
Non, j'ai volé dans les magasins. Non, moi, j'ai volé à mes parents.
Toi, t'as toujours rien trouvé?
Non.
Ok, d'accord.
Moi,
le pire truc que j'ai fait hors la loi, j'ai squatté.
Oh. Ouais. C'était il y a longtemps, hein, Alex.
Ça fait 12 ans quand même.
Non, juste... Après, j'étais pas le squatteur méchant. C'est-à-dire quand je me suis fait gauler par le proprio qui m'a dit qu'est-ce que vous faites chez moi, je suis parti. C'est pas le squat avec je m'impose et avec quoi qu'il arrive, je resterai là jusqu'au 21 mars. Je sais plus quelle est la date.
Il connaît bien la date.
Un peu le côté honteux. C'est le printemps, vieux. C'est le 20 d'ailleurs, le mars. T'as toujours. Oh, j'arrive pas à croire.
Mais un squat, c'est
pas voler un rouge à lèvres.
Squat, c'est pas
quoi, bien, je trouve.
Mais si voler, t'as
pas volé quand même. Jamais. Même les premiers, tu sais, dans les Présunis,
non, jamais.
Bon, là.
Non, jamais volé.
Je l'ai fait.
Mais moi,
c'était à la fraise.
Pascal, j'ai demandé une anecdote, pas toute l'émission là-dessus. Ce n'est que
plus. Tous voler un rouge à lèvres.
Tous, ouais. J'ai le sentiment, on est.
Mon père a dit, tu as sali mon nom.
Ah ouais, bah oui, c'est pour ça que je vole pas, moi. Donc,
ouais, ah, c'est bien, c'est respect des gènes.
Tu
as salué, moi.
En plus, pour des
culottes.
Il faut avoir de l'ambition.
Ça, on peut le comprendre.
Donc, j'espère
que non, faut acheter des trucs chers. Tant qu'à se faire avoir, autant prendre un risque.
Mais vas-y, raconte-nous les.
Non, j'ai grillé un feu rouge, sans doute.
Voilà.
Quoi? Tout le monde choqué.
J'ai jamais volé, franchement, j'ai jamais.
Bah, si, t'as volé.
Le problème, c'est qu'elle a brûlé un feu rouge avec Oldelaf bourré au volant. Ça fait beaucoup.
Je me souviens plus
en fuyant.
Je voulais juste revenir.
Ouais, c'est trop tard, Julien. On va parler des Lyonnais. Et voici Hold de la fan de Rebecca Marder de Pascal Amiens.
Mais oui! Je suis fan de Pascal Arbillot, une comédienne écolo, elle fait que de l'arbillot. Vous avez passé votre enfance à Port-de-Champéret, je trouve ça terrible que jamais personne vous ait adopté. Je suis fan de Rebecca Marder, la fantastique, c'est l'inventrice du Rebecca en musique. On aime tellement tous vos films avec tous mes amis, qu'on organise régulièrement des Marder parties. Et vous êtes là ensemble pour les Lyon, quelle série. 5 femmes qui braquent une banque pour sortir des ennuis. 36 280 euros moisis. Elles piquaient les pompes de Nagui, elles vivaient toute leur vie. Par contre, c'est du 37. Hein. Oh, je suis fan des Lyonnes, je suis sûr du succès. Mais le problème dans un braquage, est-ce que tu braquassais? Et en plus, elles font se passer pour les hommes, c'est honteux. Elles ont quand même une excuse, leur série, c'est la plus mieux. Filles de Marseille, Aix, en prouve à Soukassi. Des filles qui n'ont pas de maille. Elles cumulent les dettes, les galères, les ennuis. Et c'est là que ça déraille. Elles braquent parce que c'est nécessaire. Et sont déguisés en boy. Braque parce que c'est nécessaire. C'est là. Ouais. Vous les girls, ça me choque beaucoup. Tranquille, France Inter. Vos carrières vont en prendre un coup. Pascal Arbillot, Rebecca, Marder. Oh, je suis fan de vous et la série elle claque. J'espère qu'il y aura une saison 2, ce sera back to break. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
De l'air pour Folie Bergère le 1er avril prochain.
Avec cette version de Back in the USSR, les Lyonnes donc sur Netflix.
Ah, j'avais pas reconnu ça.
Moi, il me manquait le.
Ouais, c'est je vais faire toutes les voies puis voilà, enregistrer le matin. Ouais. Revenez ce soir, dans 18h, ce sera bon.
Les Lyonnes, c'est une, ouais, c'est une comédie et en même temps, il y a ce côté très féministe que j'ai adoré parce que d'abord, c'est une série avec portée par des femmes. Vous deux, donc Pascal et Rebecca, il y a également Nedra Ayadi, Zoé Marshall, Tia Deslauriers, et puis il y a beaucoup de femmes, puisqu'il y a Jonathan Cohen également et François Damiens. Cette part de féminité. Ouais. Et surtout, le meneur de la série, Olivier Rosenberg, qui a co-signé avec Karine Prévost, mais qui joue.
Et Samy Oukalbali aussi,
ouais,
oui. Magnifique.
Et qui joue l'un des méchants. Il y a les méchants, il y a les gentils. Ouais. C'est ça. C'est super difficile à pitcher. En plus, on a bingé les 8 épisodes, donc on va faire attention de ne pas spoiler non plus. Le point de départ, c'est ça. Vous travaillez dans une banque et vous êtes dans la galère avec votre mec en prison. Et
elle
avec
doit rembourser ses dettes.
Les enfants à la maison.
Et ouais. Elle ne peut dépenser que 30 euros par semaine.
Oui, c'est ça. Elle est presque interdite bancaire et elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle a deux enfants et elle a surtout une bande d'amis avec qui elle a grandi. Enfin, l'une est sa cousine, l'autre est son amie. Enfin, voilà, l'autre est sa voisine. Et en fait, tout ensemble, elles vont rencontrer ensuite le personnage de Pascal. Et tout ensemble, ces femmes vont se rendre compte qu'elles ont toutes plus ou moins besoin d'échapper à leurs conditions. Et donc, de commettre comme ça l'irréparable.
Elles sont dans la galère. Elles vivent en cité. On les imagine toutes voisines, toutes connectées les unes aux autres. Et peut-être même dans une espèce d'entraide.
Oui.
D'ailleurs, y compris entraide dans le rapport à l'homme ou au macho qu'elles peuvent croiser dans leur vie, mais surtout entrer dans la galère du quotidien. Pascal Arbillot, vous, votre personnage, il est de l'autre côté de la société, c'est-à-dire que c'est...
La femme du président de région.
C'est la femme du président de région, jouée par François Damiens,
oui.
Qui est le salaud de service.
Ah, qui est vraiment un monstreux. C'est, il est
un président de
région, préfère son animal de compagnie à sa femme.
Un coq.
et on soupçonne, enfin on soupçonne pas, des violences conjugales.
Oui, psychologiques, voire physiques. Ouais. C'est pas appuyé, mais on sans doute.
Bah si, vous parlez super mal.
Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Super. Ce qui est fou, c'est que je pense que...
Ça existe.
Je me souvenais même en le tournant, je me disais, c'est fou, elle ne réagit pas, cette femme, mais je pense qu'il y en a plein qui ne réagissent pas, et que c'est normal.
Il y a des moments où j'ai pensé à la chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller. Il y a le côté, là, tu t'es vu comme t'es coiffé, tu t'es vu comme t'es habillé, tu t'es vu, t'es vieille, t'es moche.
Tu te laisses aller. Il aurait pu me la chanter très bien.
Non, mais voilà, vous voyez le rôle joué par Aznavour dans cette chanson, mais c'est vraiment dans cette espèce de tension. Et lui, il est totalement déconnecté de la réalité. Il ne pense qu'à sa réussite personnelle, qu'à sa carrière.
Comment
se faire réélire.
Et elles se rencontrent. Alors au début, je ne suis pas trop acceptée parce que je ne suis pas de ce milieu-là. On peut même penser que je pourrais être une traître à la cause et bien à la cité.
Et une raciste, puisque le président de la région
totalement
est plutôt
populiste.
Raciste,
pour ne pas dire plus.
Pas du tout inspiré de faits réels.
Voilà. Et on se retrouve. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on se retrouve. Et à Mers. Qu'est-ce que je voulais. Mers. Pour ne pas dire merde, j'ai dit merde.
C'est joli. C'est un mélange de merci. C'est vrai que t'as pas dit merde, on l'a pas entendu.
Je ne l'ai pas dit.
Donc elle est pas acceptée au début.
Elle est pas acceptée au début. Elles font un premier braquage et puis après, bon, on peut pas tout binger, mais elles en font un peu plus, dont certains se passent plus ou moins bien.
Et puis elle a plus rien à perdre.
Et elle a plus rien à perdre parce que elle aussi, au bout d'un moment, je sais pas si on peut le dire, c'est au début.
Non, ce qu'on peut.
Je suis pas très bien. Je suis pas très en forme au début. Au fond, elle me sauve un petit peu. Je suis limite disparaître de cette planète. Et je me retrouve à braquer sans comprendre vraiment.
Ce qu'on peut dire, c'est que chacune a envie d'en être, pour des raisons peut-être personnelles.
Très différentes.
Voilà.
Et après, elles n'ont plus le choix, parce qu'il n'y a pas seulement les politiques, mais il y a les mafieux, et puis après, il y a la police qui les poursuit.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, tous les hommes, et c'est vrai qu'elles n'ont pas le choix.
Pour bien comprendre le sens de l'humour, c'est difficile de raconter à quel point c'est drôle, mais c'est totalement drôle et totalement barré. Le point de départ, c'est vous, Rebecca Marder, votre personnage qui dit « J'ai une idée, mais vous adressez à une seule personne. J'ai une idée, on va braquer ma banque. » Vous ne parlez qu'au personnage joué par Zoé Marshall, qui n'a aucun filtre et qui donc, elle, va le dire à tout le monde. C'est-à-dire que chaque fois que vous lui dites « Tais-toi », elle dit « Ouais, on va aller braquer la banque, vas-y, viens avec nous. »
Elle est exceptionnelle.
Elle est exceptionnelle dans cette série.
Sa rôle très particulier parce qu'elle a une maladie.
Elle est double.
Elle
a une dualité.
Bipolaire.
Voilà.
Donc, du coup, ça fait évidemment pendant les braquages, ça peut poser des petits soucis. Ouais. La bipolarité du chauffeur.
Elle voit son personnage, ouais. son chatane, elle son voit double, dans, ouais. Le, ouais, c'est son... ça, dans le rétro. Ouais. Elle entend des
son
voix.
Son chétane,
ouais, c'est ça.
Chatane, c'est Maxime Chatane.
Sinon, il y a Chacapong aussi, j'aime bien. Elle entend son Chacapong. Et.
Cette émission ne veut rien dire. Hein. Je suis désolé.
Son mauvais génie. Elle a dans le rétroviseur. Elle a des voix comme ça où elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle conduit super bien parce qu'il y a aussi des cascades.
C'est vraiment une comédie d'action. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais autant aimé conduire. C'est génial de faire des cascades.
Non. Et puis avec des looks à la ZZ Top. Ouais. Des personnages totalement différents, mais qui se retrouvent pour un point commun, c'est-à-dire faire ses casses, se sortir de la galère du quotidien. Il n'y a plus de solution. Elles ont chacune le sentiment que la société est contre elles et comment se sortir de ces conditions. Que ce soit d'ailleurs le bas de l'échelle sociale ou le top de l'échelle sociale, ouais. Dans les deux cas, en tout cas, elles ne sont pas heureuses de ce qu'elles ont. Alors après, passer par des moments de pure inégalité, évidemment, ça devient une fiction. Avec des dealers de drogue, avec des magouilles, avec de l'argent liquide.
D'amour. Mais en fait, elles se battent toutes contre un système corrompu, géré par des hommes, quoi. Et c'est vraiment le patriarcat tourné au ridicule maximal. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'Olivier Rosenberg, il a un cerveau qui n'est pas le même que nous tous. C'est lui, avec Karine Prévost et Mao Mollaré, qui a inventé toutes ces répliques un peu qui fusent tout le temps. Mais c'est vrai qu'il a un cerveau tellement vif, Olivier. Et c'est une espèce de réalité augmentée, en fait.
Et c'est produit par Jonathan Cohen. Parce que
Films entre 2 et 4, où ils sont trois, il y a Benjamin Bellecour, Jonathan Cohen et Jean Toussaint Bernard.
Oui, alors il est présent, Jonathan Cohen. John, il arrive au bout du troisième ou quatrième épisode. Il a un rôle clé.
Monsieur Castel,
il joue l'héritier des banques Castel que je dois séduire pour le braquer.
Ouais, mais moi j'ai retrouvé un peu son personnage un peu de la flamme du playboy du séducteur.
Oui, mais un peu plus sincère,
amoureux,
plus, parce
amoureux,
que là je pense que
plus premier degré, ouais.
Il est un peu plus premier
degré. Il est vraiment fou amoureux de
Et lui il a des gros problèmes avec ses parents parce qu'il est héritier de la banque mais
adopté.
Voilà, c'est ça. Il n'a pas été voulu par les parents.
Zoé, par exemple, a des gros problèmes avec sa famille, le rôle de Zoé. Donc, en fait, on voit aussi tout ce qui se passe derrière et quelle que soit la strate sociale, c'est à peu près les mêmes problèmes.
En fait, c'est réalité augmentée, mais avec beaucoup d'authenticité. Ouais. Parce que je trouve qu'on est quand même touché par leur destin et leur ça le terme. Non mais c'est vrai.
Et super bien joué, super bien interprété. Le montage. Ah,
sinon vous seriez pas là, les mauvais. Ouais, ils
c'est vrai.
On le dit pas autant. Les Lyonnes donc depuis hier sur Netflix. Si vous n'avez pas les codes, demandez les codes à Rebecca et à Pascal. Ils vont les
prendre facilement.
Voici Lisa Delmoitier. Est-ce que Lisa, vous n'en avez pas fait une série comme ça sur des femmes qui braquent des banques?
Non. Vu ce qu'on gagne sur France Inter, avec vos histoires de braquage au féminin, faut arrêter de me tenter. Hein. Après, vous allez me dire, vu mes chroniques, sachant qu'elles sont payées par l'argent public, est-ce que c'est pas déjà un peu un braquage, cette carrière? Oui, monsieur, j'ai un badge pour l'ascenseur en plus. Non, en vrai, c'est fou, mais j'ai bien réfléchi et je crois que la seule chose qui m'empêche. Oui, ça m'arrête. J'ai mal à la tête. J'ai réfléchi et je crois que la seule chose qui m'empêche d'être une criminelle, c'est la peur de me faire attraper. C'est vraiment fou. Je dis que j'ai des valeurs, c'est une façon polie de dire que j'ai peur de la prison. Je peux pas me doucher en groupe entourée de filles. J'ai peur qu'elles voient que je suis déjà mouillée avant même d'avoir commencé à me doucher.
Non.
Mais le braquage.
T'as réussi à choquer parce qu'elle a
dit. Non, pas du tout, je l'adore.
Mais le braquage, faut pas dire ça parce que je vais vraiment.
Faut pas l'encourager.
Me doucher. Non, le braquage, j'ai un peu de mal quand même. Voler les institutions, je veux bien. Les banques sont assurées, on se le sort mettront. Mais voler les gens, non. Pas plus tard que la semaine passée, on m'a volé un colis dans ma boîte aux lettres. Très petit colis, du coup. C'était Nagui. Je n'ai pas toujours des idées de blagues.
Non. D'où la méchanceté gratuite.
D'où la méchanceté gratuite.
Vilaine.
Non. Non, pas loin. Je raconte ma vie. C'était un tapis de salle de bain.
D'accord.
Volatilisé. Résultat, ma salle de bain restera trempée avant même d'avoir commencé à me doucher.
Toujours personne. Joke.
plus. Donc ouais, on m'a braqué un colis et en vrai, c'est le karma. Hein. Ça m'apprendra à commander en ligne au lieu de supporter les commerçants de mon quartier qui sont si nombreux à vendre des tapis de salle de bain. Sérieux, moi je veux bien soutenir les commerces locaux, mais j'ai peur d'arriver trop tard vu ce qu'il reste comme magasin en ville. Hein. J'habite à Paris, donc à moins de m'essuyer les pieds sur un match à la thé, je sais pas ce que je vais leur acheter aux commerçants de mon quartier. Mais promis, je ferai mieux. Et en même temps, acheter en ligne, c'est comme braquer pour vos deux personnages, Rebecca et Pascal. La première fois, tu te dis que c'est mal. Alors tu te convaincs que ce sera juste une fois. Hein. Tu sais, c'est comme à l'apéro, quand tu te penches sur le bol de chips en disant « Allez, un seul alors !» Et 10 minutes et un bol vide plus tard, t'as le sourire de l'ange, tellement tu t'es coincé des nachos au sel entre les commissures des lèvres. T'es arrivé à la soirée aussi belle que Rebecca Marder, tu repars, tu ressembles au Joker. Vous êtes tout aussi belle, Pascal, mais Joker, ça rime pas avec Herbio. C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Si ça vous plaît pas, blâmez pas le joueur, prenez-vous-en au jeu. Voilà. Phrase que je dis aussi quand je joue aux échecs. Ah oui. Les échecs, c'est un jeu lors duquel mes amis écoutent mes chroniques et comptent celles qui ont bidé. 5 échecs rien que la semaine passée, quand même. Ce qui est fou, sachant que je suis passée à 4 chroniques par semaine. mais soit, comme le premier chips n'est jamais le dernier, quand tu vois que le braquage passe la première fois, t'en veux encore plus, tu braques tout ce qui passe. Hein. Et dans la série Les Lyonnes, tu braques déguisé en homme. C'est vrai que c'est masculin, le braquage. Pardon, mesdames, mais ce que vous faites, c'est de l'appropriation culturelle. Mmh. Voilà, c'est quoi la suite? Vous avez aussi écarté vos jambes dans le métro et m'expliquer mon cycle menstruel? Non, mais Lisa, c'est important le potassium en phase ovulatoire.
Oh là là.
Écoute, moi je suis plus kétamine, mais enfin, chacun sa gynéco. Non, en vrai, moi j'aime bien que les femmes s'emparent de métiers typiquement masculins, chef d'entreprise, pilote, animateur radio. On avance. Mais braqueur, on avait encore des lacunes, alors bravo. Bravo les filles. Next step, la mafia. Ah ben voilà, Arbio, Tony Soprano. yes, allez. On lâche rien. C'est quoi, je vais lâcher allez. Là tout de suite. Non, on lâche rien les meufs dans le combat pour la représentation dans le travail et la criminalité. Par contre, je suis un peu déçue de nous niveau pédophilie. Et si cette dernière blague de mauvais goût ne vous plaît pas, vous avez qu'à jouer aux échecs avec mes amis.
Yes. Isabelle Moitié. Alors justement, série, oui, féministe, appropriation culturelle, et puis le message très précis sur le choix des lionnes. C'est elles qui vont à la chasse, c'est elles qui font tout le boulot.
Et qui se servent en premier.
Voilà, et ça commence à, oui. Ça commence à gueuler quand les lions prennent la plus grosse part.
Oui.
C'est ça, hein, c'est clairement
non,
expliqué
c'est vrai,
dans la série.
Il paraît que c'est ce qui se passe dans la série.
Ah oui, non, c'est, non j'ai vu ça sur la chaîne Géo.
Tard au soir.
Je sais pas, non, c'est ça, on reporte la journée Lyon. Oui. Pardon, oui, Pascal ?
Non, mais j'ai rien.
Non, et c'est aussi. Moi, je
hurlais TV5. Je pensais
ah,
pas,
pardon, très bien.
TV5 Monde, souvent, il y a des trucs sur les lignes.
D'accord, on prend note.
National Géographique aussi.
National Géographique.
C'est ça, il y a plein de. Il y a plein
de
le premier shot d'adrénaline, le premier braquage, est à 36 000 et quelques euros. Et oui. Ce qui est drôle, c'est de se dire, ça reste un vol. Le moindre euro reste un vol, mais qu'elles prennent autant de risques pour une somme entre guillemets modique par rapport à tout ce qu'on entend sur des braquages de plusieurs
millions,
dizaines de millions ou centaines de millions,
oui.
Mais elles sont au top.
Bah pour
heureuses.
Elles, pour leur quotidien.
On va partager, on va avoir chacune 4000 euros, ça va être génial.
Oui, mais d'abord, elles vont braquer cette banque sans savoir combien d'ailleurs elles vont récupérer, mais c'est plus de toute façon c'est une grosse somme, enfin
elles
je veux dire
une Drayadi, elle est
oui, c'est
acculée
ça.
Quoi par son mari qui est son ex-mari qui est
et puis on la menace de retirer ses enfants quand même.
Voilà, c'est ça, ouais. elle a peur de perdre la garde de ses enfants, donc elles sont toutes motivées, même pour voler 10 000 euros.
Ouais.
Beaucoup de cascades, beaucoup d'effets spéciaux, c'est encore une fois extrêmement drôle, rythmé, très musicalisé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Est-ce que c'était de... Pascal, oui, pardon.
Ah, mais ça m'est sorti.
C'est
cas.
Quoi
c'est le plus difficile, moi, c'est vraiment les tenues. Ouais. Et de tenir une vraie Kalachnikov des journées entières, je suis...
On est avec
une
fausse barbe, parce qu'on est en barbe,
et d'avoir
tout
l'air
ça,
d'être
tout
vraiment...
Tout étant tourné dans le Vaucluse et près de Marseille, hein, c'est ça. Vous avez tourné dans les Bouches-du-Rhône.
À Salon de Provence.
Salon de Provence, très bien.
En partie, après à Martigues. On a adoré, c'était l'hiver, mais on a été accueillis par des gens tellement sympas.
Donc les tenues vestimentaires, le déguisement tenues... ZZ Top n'était pas au top.
Non, c'est génial, c'était l'éclate, mais je vous jure, les fusils, ça pèse très très lourd.
Oui, quoi. C'est vrai. C'est vrai,
ah,
c'est
vrai.
Oui, j'allais dire, ils n'étaient pas obligés de prendre des vrais, mais apparemment...
Ouais. Si, parce que c'est mieux, justement, ça fait pas...
Ça fait plus, oui.
Oui, non, puis j'imagine même la difficulté de le porter aide aussi.
Oui,
au,
puis de
ne
pas
jeu.
Se regarder, de ne pas se dire je suis en train de faire.
Oui.
De ne pas se prendre au sérieux quand on le fait, et en même temps, il faut y aller parce que c'est des vrais.
Et oui, il faut y aller parce qu'Olivier, il nous demandait aussi de ne pas être des filles branques qui s'y mettent. Il fallait vraiment. Lui aussi, sa joie, c'était de nous mettre. Dans des positions d'hommes dans des films d'action, quoi. Donc, on est là avec nos talkies. Enfin, on est vraiment.
Non, mais. Et de jouer la méchante aussi.
Mais bien sûr.
Sur un ton de voix d'être menaçante.
Bien
sûr.
Ouais. Mais ça, c'était la joie la plus suprême aussi pour mon personnage. Ce qui était heureux, c'était de se travestir autant parce que de passer du déguisement d'homme pour les braquages, ensuite un peu bourgeoise pour séduire justement Jonathan Cohen, cet héritier, et jusqu'à finalement
il y a beaucoup de mensonges. Ouais.
Voilà, ouais, c'est ça. Et donc il y a beaucoup de, je crois que pour nous toutes c'était ça la joie, quoi. Mais après ce qui m'a touchée, c'est que Olivier Rosenberg, lui, sa mère était vraiment hôtesse d'accueil dans une banque. Et quand il était petit, elle est venue tourner. Elle joue le rôle de ma collègue dans la banque,
dans le premier
braquage. D'accord. Je la plaque au sol, je l'insulte. Enfin bon, c'est et elle s'appelle Zizette. Et je pense que Olivier, le réalisateur, je suis sûre que ça a été un peu son rêve d'enfant d'imaginer que sa mère braquait sa banque et il devenait riche, quoi. Et donc en fait. C'était hyper émouvant pour nous d'accoucher le rêve.
Donc pour Olivier Rosenberg, c'est un documentaire. Pour vous, c'est une fiction.
Non, mais parce que sa vie, elle est plus folle que la vie. Et donc
le point de départ est de voler dans un supermarché, d'ailleurs.
Une Barbie.
Plusieurs objets. Avec cette phrase qui est « Tu es enceinte, tu es donc invisible.
Oui. »
Tu es une femme enceinte, donc
c'est vrai,
tu es invisible.
C'est la première phrase.
Voilà, il y a une des premières phrases de la série qui dit bien, qui positionne les.
T'inquiète, bientôt je les canne, tu es avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune.
Une bande son de dingue très rythmée. Heureusement qu'il y a Magic System pour rappeler qu'on est champion du monde quand même.
Non, il y a un moment, on se dit.
C'est quoi la musique ? C'est drôle, c'est extrêmement bien joué, très rythmé, et puis surtout il y a un véritable suspense, c'est-à-dire qu'on a bingé, au-delà d'avoir le plaisir de le voir et de faire notre travail le mieux possible.
Vous êtes incroyable.
C'est que surtout on avait envie de savoir comment.
La suite. Il y a un engrenage, ils ont écrit, mais
chaque fois.
Oui, et puis il y a de l'émotion aussi. Moi, j'ai été surprise quand j'ai découvert la série, alors que je l'avais tournée à la fin de la série. Je ne spoile pas, mais j'étais émue aux larmes en voyant aussi. Il y a, vous le verrez, c'est pas un spoil, il y a un plan de grue, donc c'est un plan vu du ciel de toutes les femmes de la cité, tout âge confondu, tout corps confondu, tout, je sais pas, j'étais tellement émue de voir tous ces corps de femmes comme ça qui se soulèvent, quoi, et qui vont pour sauver leur cité. Et en fait, ça m'a beaucoup émue aussi sur la solidarité et de se dire, ah, si les femmes étaient un peu plus au pouvoir, peut-être, bon, pas toutes les femmes, si les femmes étaient un peu plus au pouvoir, peut-être qu'on aurait moins de problèmes.
Et non.
Pas forcément.
Et non. Parce qu'on va pas essentialiser la femme à quelque chose de positif. Voilà. Et donc, l'égalité,
c'est aussi des mafieuses et des personnages.
Est-ce que vous avez hésité quand on lit, parce que nous, on s'en rend compte, on a vu la série, elle est drôle, elle est bien filmée, elle est bien rythmée, elle est intelligente, elle fait passer des messages et des valeurs. Mais sur le papier, est-ce que vous sentiez déjà tout ça? Est-ce qu'il y a eu des petits moments d'hésitation, Pascal Arbillot?
J'ai bingé la lecture. Je vous jure, c'est la première fois de ma vie et que j'ai fait « Ouah, c'est pas possible !» C'est pas possible. Déjà à l'écriture, et on a toutes à peu près le même avis. Moi j'ai dit oui.
Et de vous faire traiter de la sorte.
Ah bah j'ai hâte.
c'est un rôle, donc évidemment c'est intéressant.
Bah oui, mais c'est bien parce qu'à la fin elle s'en sort aussi. Elle s'en sort différemment.
Chacune a son histoire.
A son histoire et elles sont pas finies les histoires. Ouais. C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est qu'en plus, moi vraiment, il y a des histoires, on a envie de savoir comment ça continue. C'est atroce.
Rebecca Marner, vous vous êtes posé la question d'une comédie parce qu'on ne vous voit pas souvent dans des délires comme ça.
Ah ouais, c'est vrai. C'est aux antipodes de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, franchement. Et moi, ça m'a, c'est aussi ce qui m'a le plus séduit. Enfin, et quand, mais comme Pascal, quand j'ai découvert, enfin, à la lecture des scénarios, j'ai ri à haute voix. Et franchement, c'est dur. Et donc forcément, et puis aussi l'expérience de tourner dans une série, j'avais jamais tourné dans une série et c'est un luxe aussi pour un acteur parce que c'est, ça permet aussi sur la durée de pouvoir approfondir les choses, de s'installer, de vivre six mois avec un personnage.
En plus c'est un film choral, donc une série chorale, donc il y a une sorte de troupe qui, qui s'installe. Troupe,
voilà. Et Olivier Rosenberg, il a un génie, il a réussi. Une folie, il a une passion dans son métier qui est exceptionnelle.
Pascal Arbillot, Rebecca Marder, Neydra Ayadi, Zoé Marshall, Tia Deslauriers, et puis également Jonathan Cohen, François Damiens.
Il y a des acteurs que j'aimerais bien citer qui sont géniaux. Raïm Koutari, Lucas Mortier, Jérémy Laheurte, il y a vraiment
Sami Houtalbali.
Et qui joue le policier
et le mari méchant de Neydra. Comment il s'appelle, je me souviens.
Ah, et il y a Steve Chenjo aussi qui joue le flic. Alors lui, il est le flic border. Il sait pas trop de quel côté.
C'est à dire, il est des deux côtés.
Il me fait de la peine. Franchement, mais il est extraordinaire.
Il a un côté nounours.
Oui, complètement. Il est malmené. Il s'est engouffré dans la corruption et il est complètement malmené.
Non, et puis surtout, il est séparé de sa famille. On voit tous pourquoi ils agissent comme ils agissent en fonction de leurs problèmes perso, slash leur boulot. C'est-à-dire qu'ils sont, il y a ce déchirement-là. Et ça fonctionne encore une fois. Oh, ça s'appelle beaucoup, Les Lyonnes, c'est sur Netflix. Voici Julien Santini. Avec son très beau pull.
Merci infiniment. Comme vous le savez, j'ai une passion pour la SNCF. Prendre des trains, c'est mon dada. Ou plutôt mon chouchou, devrais-je dire. Mais cette fois, attention, ça va envoyer du bois, les mecs et les gonzesses. Alors on m'écoute, sinon je ravage le nouveau studio. Pardon, je m'égare. C'était un jour de semaine, un lundi ou un mardi. Bon bref, vous avez compris, je rentre dans le wagon, je vais pour aller à ma place et j'assiste à cette scène, vous savez, le moment où il y a deux personnes qui pensent qu'elles sont à la même place. Parce que putain la gobe, c'est compliqué d'être dans la bonne voiture et à la bonne place. On l'oublie un peu trop, mais dans quelques semaine, certains, peut-être même autour de cette table, vont partir faire la guerre en Russie. On doit se préparer. Oui, je suis sur des chaînes d'infos anxiogènes et c'est ce qu'on dit en permanence, donc j'y crois. Mais en attendant, on va faire comment sur le champ de bataille pour savoir où se placer si on n'est pas capable, dans un train, d'être dans la bonne voiture à sa place ? Et là, c'était le pire parce que la dame a répondu. Alors, je me suis mis à cette place qui, effectivement, n'est pas la mienne, mais parce que quelqu'un a pris ma place. Du coup, si vous voulez, vous pouvez aller à la place de cette dame. Vous le connaissez, ce moment où, de bonne foi, des gens acceptent de se compliquer la vie et celle des autres, et le gars de répondre « Ah ben ok, pas de souci. » Mais moi, je vous le dis, personne ne se met à ma place. C'est une question de principe, je l'ai choisi. En l'espace de quelques jours, entre le temps de la résa et le temps du voyage, je me suis attaché à cette place. Ne me jugez pas, je suis sentimental. C'est pas normal qu'un voyage en train se transforme en un cluedo géant. Et il faut se retrouver à la bonne place, sachant qu'un tel s'est mis à celle-ci, mais moi, je dois voir celle-là. Du coup, je vais pour me mettre à ma place côté fenêtre. Heureusement, personne à côté de moi, en tout cas pour l'instant. Par contre, un détail a son importance. Je vois le pied de la personne derrière moi qui est tellement grand qu'il arrive sur le siège couloir à côté de mes pieds. Ce que je viens de vous dire, ça fait 3 jours que je l'ai écrit et ça fait 3 jours que je me demande si les gens vont comprendre. Et je précise aussi que j'ai absolument pas prévu de plan B au cas où c'était pas clair pour expliquer mieux, parce que ma confiance en moi est totale. Quand il y a le pied, quand tout à coup un voyageur lucide dit au géant, l'homme au pied, pardon, mais je crois que vous êtes à ma place. Le géant vert répond, oups, en fait, j'étais juste devant. Et devant, c'est en réalité à côté de moi. Il ressemblait à un de ces géants qu'on peut voir dans le Seigneur des Anneaux. Il était roux. Et c'est ok. Et il avait une grosse barbe. Pas bien taillée du tout. Vous allez voir, ça a son importance. Il soufflait très fort. Je déteste les gens qu'on entend inspirer ou expirer comme des bœufs. Mon père faisait ça aussi. Oui, il faisait. Tu es mon père ? Impro. Mon père faisait ça aussi. Un jour, on était au cinéma et je lui ai dit « Mais papa, pourquoi tu respires aussi fort ?» Et il m'a dit cette phrase « C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a la clim dans la salle et je ne veux pas tomber malade. » Voilà, je vous demande de ne pas juger mon père. Non. Mais moi, en tout cas, j'ai absolument pas compris cette logique. Le géant vert du Seigneur des Anneaux était massif. Il ressemblait au docteur Péchier. Vous voyez qui c'est ? C'est l'anesthésiste réanimateur qui a été reconnu coupable de beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'empoisonnement, en fait. J'avais peur qu'il me dise « J'ai pris un café, mais je ne vais pas le boire. Ce serait con de le jeter. »
vous en voulez ? Mais bien sûr, Frédéric ! C'était trop bizarre. Il arrêtait pas d'être sur Google, mais pendant qu'on était dans le train, Google Maps. Pendant que... J'ai entendu un... C'est pas clair, c'est ça ?
Non, c'est très mal indiqué, en fait. En fait,
je vais expliquer. Ben, je reprends. Hey, c'est OK. Hein. Quand la frontière est ténue entre le mépris et l'humiliation, comme Nagui qui vient de dire « Je ne situe pas », c'est OK, on se reprend. On se dit « On fait 3 minutes de plus » et c'est cadeau parce que c'est la SACD, ça palpe, ça palpe, ça palpe. Il était... Mais t'as raison, Nagui. C'était Google Maps, c'était pas clair. Il était sur Google Maps, mais pendant qu'on était dans le train, avec le petit point bleu qui se balade pendant qu'on voyage. Vous le voyez au milieu de la carte avec les routes et les forêts autour.
Oui, oui,
voilà, là, c'est clair, okay. On a l'image. Je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il se disait, après avoir commis un quintuple assassinat tout en restant présumé innocent, OK, une fois que j'aurai quitté le Formule 1 de Puget sur Argence, je prendrai la N62. Là m'attendra Kevin, qui m'en doit une. Je vais pouvoir dormir dans un gîte où je sais que personne ne me posera de questions. Voilà, c'est ce que j'ai imaginé, mais je ne saurais pas plus parce qu'il nous a quittés en gare du Creusot TGV. Sans dire au revoir, comme une merde, il est parti comme il est arrivé, un vagabond, sac à dos, corps de géant. À ce moment-là, pas si mal la chronique, plutôt clair-clair, dis donc. À ce moment-là, pendant que mon nouveau compagnon de voyage range ses affaires et s'apprête à me rejoindre, je reçois sur mon WhatsApp, je vous jure que c'est vrai, un message de Nagui, dont je comprends assez rapidement que c'est une blague. Et cette blague, il doit en avoir honte, mais cette blague, je vais la dire. Aïe. En Corse, il y a un homme qui fait des knackis, mais ça, on ne peut pas en parler, c'est l'homme Erta. Si je suis honnête, il rit parce qu'il sait que c'est vrai. Si je suis honnête, j'ai trouvé ce message ridicule. Et si je continue à être honnête, je vous dirais que recevoir un tel message de mon employeur veut dire que je reste moins menacé d'être viré que d'autres personnes autour de cette table. Veut dire que je ne suis toujours pas sur la sellette, et ça, c'est une fucking bonne nouvelle. Le voyageur s'assoit à côté de moi et le reste est pépite. Il regarde, et je vous jure encore que l'anecdote est vraie, il regarde une chronique de France Inter de Daniel Morin. Mon premier sentiment est la fierté. Je suis fier à ce moment-là de connaître Daniel. J'ai envie de dire au voyageur que je le connais très bien et que s'il veut, il peut écouter aussi mes chroniques, car je suis sur cette radio, mais je continue à observer. Et quelque chose me frappe. La scène va durer 5 minutes et pendant 5 minutes, le voyageur est resté stoïque. Ce qui veut dire qu'il a écouté une chronique entière de Daniel Morin, mais qu'il est resté de marbre. Il n'a pas rigolé. Je suis passé alors de la fierté à la honte. J'ai eu honte de toi, Daniel. Un ascenseur émotionnel radiophonique. Daniel, ne te justifie pas. Ne perds pas ton temps à t'expliquer. La vie est une chienne et tu n'as pas de laisse. Alors là, j'ai absolument aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire, mais quand c'est un bon rajout du rédac chef, c'est OK. En revanche, j'ai envie de dire à mon ancien voisin de train, si vous voulez passer un bon moment de poilade, écoutez cette chronique, c'est celle de Julien Santini.
Alors, Julien Santini qui a vanné Nagui, qui m'a vanné, donc c'était sa dernière chronique, c'était
clairement.
Donc, il aura tout le temps de se rendre ce soir à Neuchâtel, puisqu'il y joue, le 17 février à Saint-Étienne, et tous les vendredis soirs au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, c'est à Paris, allez-y, ce n'est pas drôle.
Lorraine Anna, avocate au barreau de Paris, sera notre invitée en quelques instants pour parler du grand banditisme féminin. Les Lyonnes sur Netflix avec nos invités Rebecca Marder et Pascal Arbillon. On va parler de la musique dans vos vies. Pascal, on va commencer en 94-95. 7 seconds pour Pascal Arbillon. Il se passe quoi, Leïla, dans la vie de Pascal?
Premier rôle au cinéma dans l'affaire de Sergio Gobbi. Vous dites, Pascal, que pour votre premier rôle... On vous voit de dos.
Oui, je suis même pas sûre, peut-être de trois quarts.
Dans les Lyonnes aussi, on vous voit de dos.
Oui.
Mais bon, revenons.
Mais il y a du théâtre aussi. Il y a La Nuit du Crime, Robert Hossein,
oui,
avec ce dispositif qui était
hallucinant,
complètement étonnant.
C'était hallucinant.
Où le public participait.
Choisissait la fin.
Fou.
Et donc chaque soir, je ne savais pas, mais j'avais une tête. Il devait décider qui était le coupable.
Ouais.
Mais c'était souvent moi, je ne sais pas.
Donc je jouais beaucoup la fin, la méchante.
Justement, en se disant la petite blonde, ouais, comme ça, c'est forcément elle la méchante.
Elle a l'air inoffensive.
Et c'était incroyable comme expérience. C'était un mec incroyable, Robert Hossein.
Vous êtes en 94-95, Rebecca Marder, en train d'écouter.
Les petits amis, le soleil resplendit. Allons réveiller.
Forcément, puisque vous êtes. à peine née.
C'est ça, 95, c'est votre année de naissance. Dans une interview, dans un papier du Monde, on décrit vos parents, votre maman critique de théâtre, votre père musicien.
C'est lui qui a fait ça.
C'est lui qui a composé cette musique pour un dessin animé. Et les trois petits cochons.
Que c'est une éducation à l'américaine où ils vous accompagnaient à plein d'activités. Ça ressemblait à quoi vos journées d'enfant au-delà de l'école?
J'ai grandi surtout avec mon père en fait. Et il m'a emmené. Il m'a inscrit au solfège, à la chorale, au piano, au saxo, à la danse, à la poterie. Enfin voilà. Donc c'était. Et en même temps, il m'a préservé de beaucoup de choses en m'enfermant dans une espèce de bulle de poésie. Mais
vous a préservé de quoi, d'après vous ?
Non, de plein de vérités aussi. Ouais. Et ce qui est peut-être grave. C'est une forme de protection aussi. Et il invente beaucoup de choses. C'est pas un mytho, hein, mais il invente des histoires.
Une poésie.
Oui, il raconte des histoires. Ouais. Et c'est un vrai artiste. Il sait pas trop se vendre. Ouais. Donc il reste un peu dans sa grotte, mais il a une vie intérieure très riche, donc fait une enfance.
C'est touchant, de vous entendre
au pays d'imaginaire.
Parler de lui comme ça, de Marc Marder. En 2007-2009, Pascal Arbillot. Tinky Winky. Les Télétobies, évidemment.
C'est votre père la musique aussi?
Pourquoi? J'ai dit que ça n'allait pas se comprendre. Pourquoi cette musique, Pascal?
C'est horrible parce que c'est quand même les Télétobies.
2007-2009.
Ah oui, mais je pense que je sais plus jusqu'à quel âge on regarde avec un enfant Télétobies, mais moi je pense
23,
que
je regarde.
Télétobies, il y avait surtout une autre génération qui regardait les Télétobies en rentrant de boîte de nuit, c'est-à-dire totalement décollé, fatigué.
Ah, j'étais pas encore.
Et c'était le programme du matin. De l'after cuite, quoi.
Je comprends.
Avec le soleil, le bébé soleil.
Ouais. C'est ça.
Mais j'adorais, en fait. Je trouve ça absurde. Je me disais, comment est-ce qu'on peut inventer Tinky Winky qui parle tous, il est tada.
Et on se retrouve au théâtre dans Parlez-moi de la pluie.
Ah ouais, ouais.
Daniel Jaoui.
Oui.
Vous interprétiez qui dans cette pièce?
Ah, c'est pas une pièce, c'est un film.
Ah, je pensais que c'était une pièce. Ah,
non, c'est un film. Ah, ouais. Avec Jamel, avec Jean-Pierre Bacri, et je faisais. Ça parlait de politique, d'une candidate. Et je sais plus si je faisais la sœur.
Je sais plus qui je faisais.
Je sais que je jouais avec Guillaume de Tonquédec et j'ai une scène avec deux, trois scènes avec Jean-Pierre Bacri. Magnifique. Et j'ai adoré ce tournage. J'ai adoré faire ce film. J'en ai un souvenir bouleversant.
Et à Coco aussi en même temps.
Ah ben. En même moment? Ah ouais?
Ouais, dans les mêmes années, à peu près. Dans 2009, dans cette même période.
Ah oui, rien à voir. C'était super aussi.
Bah oui, avec Gad Elmaleh.
Non, ah ouais, c'était dingue.
Rebecca Marder, vous écoutiez. Ce qui va bien avec les lions, hein. Ouais, je vous vois pas délirer sur Fouta Cagoule, pardon.
Ah ouais, je connais toutes les paroles par cœur.
Mais non.
Et je l'ai avec mon cousin, c'était notre hymne à cette époque.
Vous chantiez.
Mais j'aime beaucoup. Et je suis vraiment.
Est-ce que vous chantiez la parodie d'Obispo avec Fatal aussi?
Bien sûr.
Évidemment.
Je ne le ferai pas.
Dommage. Et on vous retrouve dans Demander la permission aux enfants. Vous tenez le rôle principal. Vous êtes toute petite, vous avez une dizaine d'années, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Vous êtes repérée, je crois, dans un cours.
Ouais, de chorale. À la chorale,
Le
mercredi.
Justement, merci papa, en fait.
Ouais.
Et vous débarquez sur un plateau de cinéma de façon naturelle ou avec une appréhension?
De façon impressionnée. Et ensuite complètement exalté, et à l'époque, mais toujours aujourd'hui, pour les enfants mineurs, travailleurs, il y a quand même des vraies règles. Et donc, c'est la DAS qui s'assure que les enfants ne travaillent pas plus d'un certain nombre d'heures par jour. Et je voulais plus rentrer chez moi, du tout. et donc, mon père était obligé d'appeler la production en menaçant de vraiment, parce que je voulais plus rentrer. Je restais même après mes propres scènes, et j'ai compris là que ce serait dur de retourner à la vie, mais après j'y suis retournée.
Et à l'école.
Donc le mec qui faisait les trois petits cochons appelait pour menacer la prod. C'est ce que je voulais vous raconter. Okay.
Je vais souffler sur votre maison.
on est en 2015. Pascal Arbillot, vous écoutiez. Vous écoutiez ou vous dansiez? Cette musique-là, elle est faite pour danser.
Ah bah,
vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger, évidemment.
Non.
The Avenger, To Let Myself Go. Et
il y a une pièce géniale, Pascal Arbiot, ouais, Un amour qui ne finit pas, André Roussin, mise en scène par Michel Faux. Ouais. Un texte avec superbe,
sublime,
et des partenaires de jeu magnifiques.
Ouais. Et un décor incroyable.
Léa Drucker,
Pierre Cassignard,
qui n'est plus,
France, qui n'est plus là.
Ouais. Et Michel Faux.
Exceptionnel.
Vous formiez deux couples.
Et qui ne sont pas du tout de la même société, pas du tout du même
même extraction
et le
bah ça fonctionne aussi forme, dans les lieux. Non mais bah c'est vraiment ça qui fonctionne, ouais, aussi quand
et
ça
un
se
amour justement qui n'existe pas parce qu'il n'est que littéraire, il n'est que par missive, ouais, et ça détruit quand même le couple d'à côté.
Ouais, c'était très beau.
C'est sublime. Ouais.
Rebecca Marder, vous écoutiez Trio Serenata. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Quand elle démarre donc ce trafic de cocaïne avec la Colombie.
Maintenant j'ai envie de chanter les brasses là-bas.
Okay. Et vous intégrez la Comédie Française, oui, à ce moment-là.
Oui.
Vous êtes repérée dans un téléfilm par Eric Ruff.
Oui, pas tout à fait. Enfin, c'était des réunions entre les directeurs d'école et le directeur de la Comédie Française. Et j'étais dans les listes donc d'élèves. J'étais au TNS à l'époque.
Oui, à Strasbourg.
Et voilà. Et donc, j'ai passé une audition. Ouais. On était une quarantaine. Mais en effet, l'année d'avant, j'avais joué avec deux sociétaires de la Comédie Française dans un téléfilm pour Arte. Et Eric Ruff l'avait vu. Mais ensuite, on était une quarantaine de jeunes filles à passer cette audition. Et cette chanson, c'était incroyable. C'est ma promo au TNS quand j'ai appris que j'étais engagée, enfin que la troupe voulait que je la rejoigne. Après cette audition, je suis rentrée à Strasbourg. Je ne savais pas si j'étais prise. Deux jours après, coup de fil d'Eric Ruff, on aimerait que vous fassiez partie de la troupe. Les répétitions commencent jeudi, donc on est deux jours pour plier ma vie
vous
à Strasbourg.
Rentrer à la Comédie Française.
Oui. Non, mais la vie qui bascule, le saut en parachute.
Mais même en deux heures, on peut ses affaires.
Ah ouais, non, mais là, j'ai couru dans mon. J'étais dans une coloc, j'ai couru dans mon couloir, j'avais l'impression que j'étais dans un rêve. Et vraiment, le lendemain, j'annonce à ma promo que voilà, j'ai été engagée. Et tout le monde pleure, on pleure. Et avec ma coloc qui faisait partie aussi de ma promo, on invite tout le monde à dîner chez nous. On était en train de couper des oignons dans la cuisine. Et il y a un garçon de la promo qui était là dans le salon et qui fait « Rebecca, viens voir un truc ». Et j'habitais sur le boulevard de la gare à Strasbourg. Et il ouvre la fenêtre. Et toute ma promo en fanfare en train de jouer cette cumbia. Wow. Avec les élèves scénographes avec des banderoles. Et j'ai cru que j'allais tomber par la fenêtre. Wow. Et c'est vraiment le jour où ma vie a basculé.
J'étais vraiment content que vous partiez.
Ouais. Et alors le côté je pleure, non, je coupe les oignons. Ça va, quoi.
Bien joué. Non,
vraiment, je vous jure, c'est le jour où ma vie.
Ah oui.
J'ai fait un AVC de
trop sympa. Trop sympa, incroyable.
Donc cette musique, elle m'a accompagné.
Les Lyonnes sur Netflix depuis hier. Nous parlons avec Lorraine Anna. Bonjour et merci, bonjour, maître, de venir à ce micro. Vous êtes avocate,
oui,
au barreau de Paris. De grand banditisme au féminin, ça existe ou ce n'est que fiction?
Oui, c'est
les
c'est
femmes
rare,
qui, les femmes qui braquent, ça existe?
Ça existe et dans la continuité, j'avais envie de dire et pourquoi pas. Bien sûr que ça existe.
Pourquoi pas? Parce que on entendait tout à l'heure que les Kalachnikovs sont lourdes, que il y a presque un problème musculaire, j'ai envie de dire. C'est pas du tout.
Voilà. On peut prendre des armes plus légères.
Bah, porter l'entraînement après, c'est bon.
Je sais pas, non, je vous rends pas. J'ai jamais tenu une Kalachnikov. Tout à l'heure, vous avez dit c'est lourd.
On peut être un cerveau. On peut ne pas porter le fusil, mais c'est le cerveau de la bande criminelle.
En fait, je crois que tout est possible. Hein. Enfin, je veux dire, dès l'instant où la personne a envie.
Ce n'est pas genré. Être hors la loi n'est pas genré.
Je crois pas, non. Il faut trouver les raisons en soi. Et puis voilà.
Alors, qui sont les plus grandes bandites? Je sais pas.
Bah, moi, la première à laquelle je pense, c'est Madame Claude. Bizarrement, oui.
Prostitution, prostitutisme.
Ouais. Après, il y en a des connus. On a Griselda Blanco,
oui,
très connue. Alors, elle, un peu sanguinaire, parce que je crois qu'elle avait vécu à Medellín. Elle jouait avec des cadavres quand elle était petite. Et son
notre
premier meurtre, elle avait 11 ans.
Ah bah donc elle était psychopathe, elle n'était pas criminelle.
Non, ça ne veut rien dire, on a tous des hobbies. Hein.
Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route et qui ont entendu Rebecca Marder dire par rapport à nos petites histoires de culottes, il faut avoir écouté le début de l'émission pour comprendre.
En même temps, c'est mieux comme ça.
On en a d'autres, on a la...
Mais en France, parce que là vous...
Alors
vous
en, France, en France, on a Sylvia Jean-Jacques, qui était la femme de Jacques Mesrine.
Ah, d'accord.
Qui elle aussi faisait des... qui participait activement.
On a... oui. Ah, oui, tout à fait. On a Martine Cabanès aussi, la femme de Jean-Charles Wiloquet. C'était un peu les Bonnie and Clyde version française à l'époque. Elle avait évadé son copain, de... enfin son mari, du tribunal.
C'est toujours des femmes deux, ce que vous racontez. Ouais, c'est ça. Oui.
C'est souvent des femmes deux. Et en France, on n'a pas tellement d'exemples. Plus que ça, peut-être que j'en
parle. De braqueuses.
Bah, il y a les gangs des Amazones, quand même, qui avaient fait...
Le gang des Amazones, oui.
J'ai...
Moi, c'était quoi, le gang des Amazones?
Mais on avait parlé du film avec ces femmes qui étaient en galère et qui, tout d'un coup, se travestissaient en hommes pour aller faire des cases de banque.
C'est un fait divers qui a eu lieu dans les années
90. Ouais, exact. Histoire vraie. Est-ce que les juges sont influencés? Est-ce que les décisions des juges sont genrées? Justement, tout à l'heure, on disait, pourquoi les hommes... Non, mais c'est vrai. Pourquoi un homme, pourquoi une femme ferait tel ou tel acte hors la loi? Est-ce que les décisions prises par les juges, avec le recul que vous avez, votre expérience, dépendent justement aussi, homme-femme, c'est pas la même décision?
Sincèrement, si je vous disais que non, je mentirais. Je vois souvent dans des affaires où les femmes sont aussi impliquées, dans des affaires de banditisme ou non, et qui très souvent ressortent avec un petit contrôle judiciaire, là où les hommes, et parfois elles ont fait plus.
Seraient plus sévèrement punies.
Oui.
Ouais.
C'est un constat, je dirais, objectif, mais non, vraiment honnête, basé sur des éléments matériels.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est souvent le point de départ, en tout cas, comme dans la série d'Elion, c'est souvent sortir de sa condition sociale parce qu'on est finalement, on se sent exclu de la société, donc on va aller carrément contre?
Je crois qu'il y a forcément de ça, mais je vais un peu à l'encontre là, du film, parce que
forcément, ça reste une fiction. Ouais.
Là, on est complètement dans la réalité. Très souvent, et l'écrasante majorité, c'est soit que ça suit un schéma familial, soit que ça suit le conjoint ou le petit copain.
C'est rarement de l'émancipation.
On s'est fait embrigader.
C'est très souvent. Ouais. Là où chez les hommes, je dirais que c'est un honneur presque, alors dans leur milieu, d'être baron ou voilà, presque ils se retrouvent eux-mêmes comme ça. Les femmes, c'est plus une anomalie. Quand elles agissent seules, c'est très bizarre, on comprend pas. Donc très souvent, alors évidemment, mais ça c'est propre à l'être humain, il y a un contexte initial qui fait que forcément à un moment donné dans sa vie, on est amené, ou on est poussé. Mais il y a quand même l'influence amoureuse qui est extrêmement, extrêmement poussée. Hein.
Merci Lorraine Anna d'être venue, avocate, je rappelle, au barreau de Paris.
Ça peut être déclenché des vocations, merci.
Ça donne envie.
Voici Emma Beaujean-Lommage.
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à Dalida. Bah oui, évidemment. Alors attention, pardon, important, aujourd'hui c'est un vrai hommage, hein, d'accord, aujourd'hui c'est du sérieux. Sois attentif parce que demain je rendrai sûrement hommage au profiterol et après demain au taille-crayon, ce qui est un petit réservoir, c'est marrant parce qu'on dirait un cul. Bref, non, je veux dire que je suis fan de Dalida, d'accord, mais pas fan à la haute de la flèche, je suis fan, nanana. Je suis vraiment fan, sans guitare ni bracelet de force en cuir. Moi, je suis fan de Dalida pour mille raisons. Alors déjà, elle avait toujours un brushing de fou, elle avait une voix de zinzin, vous allez voir, hein, les ressemblances avec moi, vous allez comprendre pourquoi je m'identifiais. Elle articulait son existence uniquement autour de sa passion, comme moi. Elle dansait bien comme quelqu'un d'autre que moi. Elle habitait dans le 18e, juste à côté du Théâtre Le Pic, où je vais reprendre mon spectacle tous les mardis à 19h. T'oublieras pas de le dire à la fin, mon Daniel. Elle a eu beaucoup d'amants. Non mais attends, mais c'est quoi? Mais on est la même personne ou quoi? Bon. Après, mon projet est de coucher pour réussir, elle c'était de loucher pour réussir. Et on vient de mettre le doigt sur une autre différence fondamentale. Elle défrayait la chronique, et moi je fais juste des chroniques. Et aussi, elle avait deux chiens, moi un seul. Parfois je me dis que je suis à un seul chien de Dalida. Et d'ailleurs, à un moment, c'était ma technique de drague pour pécho. Voilà, envoyer des chansons de Dalida par message. Bon, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que même si la technique est excellente, en fait, je n'arriverai jamais à pécho Leïla Kadour. Non, je me suis fait une raison à ce sujet sur son profil Inge. Leïla, en phase de passion, elle a mis « Je suis passionnée par l'analyse critique de structures conceptuelles et des dynamiques socioculturelles via la lecture d'essais théoriques et réflexifs. » Sur le mien, j'ai juste mis « Passion, deux points, Leïla Kadour. » Mais revenons à Dalida. Comme beaucoup de gens, moi j'ai des goûts musicaux qui font que parfois je me sens un peu ringousse. C'est-à-dire que moi je me sens pas dans mon âge. Pour vous dire, il y a plein de chanteurs que j'aime qui ne pourraient pas faire carrière aujourd'hui. C'est une manière détournée pour dire que je kiffe Claude François. Ce qui, s'il était encore en vie, ne serait pas forcément réciproque. Au mieux, je serais une MILF pour lui, du haut de mes 24 ans. Et oui, c'est clairement ça, ma vision des chanteurs dans les années 80. Petite Anne.
Tu reviens de l'école. Assieds-toi sur mes genoux. Il va falloir que tu t'y colles. C'est l'heure du goûter. Une vraie femme enfant. Mais je peux attendre au moins tes 12 ans. Enfin bref, vous avez l'idée. Par contre, pas cool la régie d'avoir mis l'instru de Jean-Luc Lahaye pour celle-ci. Pour en revenir à Dalida, une des choses. Évidemment, toujours, toujours. C'est une des choses qui m'éloigne fondamentalement d'elle, évidemment, c'est que moi, je ne me suis pas suicidée. Même si, pour moi, comme pour beaucoup de personnes, et comme elle l'a indiqué sur son petit mot avant de nous laisser, souvent, vivre nous est insupportable. Mais il y a des gens et des choses qui rendent l'existence supportable et même très douce. Et les jolies chansons de Dalida en font paradoxalement partie. Alors, c'est plutôt à ça que je rends hommage aujourd'hui.
Merci. Merci. Il paraît qu'elle est au Théâtre du Pic.
Absolument, et c'est le mardi et c'est à 19h. Et si vous habitez à Metz, vous aurez la chance d'aller la voir le 20 février.
Les Lyonnes, déjà sur Netflix, on en parle avec Rebecca Marder et Pascal Arbiou qui sont nos invités jusqu'à 12h30. De quoi vas-tu nous parler?
Je vais vous parler du rôle de la génétique dans l'espérance de vie. En fait, elle est énorme, donc vous pouvez ranger le thé vert et arrêter de faire du sport, ça sert à rien.
Ah, par la présence.
D'accord.
Avec Lisa, avec Lisa, avec Emma Beaujean, avec Julien Santini, Oldelaf.
Bonjour.
Incroyable, Tanguy Daniel Morin.
Bonjour Oldelaf.
Et nos invités Rebecca Marder et Pascal Arbillon. J'ai un peu tout envoyé en même temps.
C'est vendredi, Nagui.
On va gagner du temps. On va pas. Sur la piste droite, on met Jingle. Sur la piste de gauche, on met la bande originale des Lyonnes, l'histoire de ces cinq femmes qui s'unissent pour sortir de la galère dans laquelle elles sont. Presque. Au début, on se dit, on peut que les comprendre parce qu'elles n'ont pas d'autre solution que d'être hors la loi. En tout cas, pour les quatre premières, le personnage de Pascal Arbiot, c'est encore autre chose. Elle est coincée par son couple et par
elle s'ennuie.
L'extrême, ouais.
Non, elles ont toutes besoin d'échapper à leurs conditions.
Oui, c'est ça.
Les unes les autres.
Donc elle commence par un petit, enfin il n'y a pas de petit ou de grand, casse. Mais ouais c'est ça, oui, pardon, mais...
elle s'entraîne.
Elles se font la main.
Un casse. Ouais. Non mais elles se font un casse en plus, en partant du principe qu'on n'en fera qu'un, oui. On va y aller qu'une fois, ça suffit, on va...
Sans violence surtout.
C'est ça.
Ouais, c'est leur règle.
Et puis il y a des règles, et s'il y en a une qui se fait attraper, elle s'occupera des enfants.
Oui, des autres, c'est ça, des autres.
Pardon?
Des autres.
Les autres,
des autres.
Ouais,
c'est
ouais,
c'est
ouais.
En prison, c'est chiant. Faut emmener les enfants face à tout un protocole.
Le vendredi, c'est pas le meilleur jour.
Tu t'es documenté.
Moi, je connais. Moi, j'avais compris la phrase qui en dit beaucoup sur moi aussi.
Merci.
Tanguy aussi est fatigué.
Voilà, c'est ça.
Les politiques, la police, évidemment, les voyous, la société, tout est là. Ce mélange, ce melting pot est là. Tout le monde, évidemment, veut retrouver qui sont ces braqueuses, parce que les voyous ne comprennent pas qui a pu faire le casse, parce que bah ils se connaissent tous les uns les autres, ils disent bah c'est pas nous, c'est pas toi, mais alors c'est qui? Donc là il y a déjà il y a
et
presque
on leur a piqué leurs armes,
une enquête dans le milieu,
et comme la police les cherche et envahit la cité, eux ne peuvent plus dealer ni enfin tout est à l'arrêt à cause de ces femmes.
Et puis on est dans une espèce de région dans laquelle tout le monde se connaît, ou en tout cas tout le monde est mélangé. Il y a même un policier qui a sa mère, sa sœur, ouais, je peux le dire. Assez rapidement. Non, j'étais en train de me demander si je spoilais ou pas. Ouais, c'est ça.
Oui. Samiou Talbali et Nedra Yedid, son frère et sœur.
Et donc le moment où il voit sa mère faire deux trois trucs bizarres, il fait maman. C'est voilà, il y a des scènes qui sont extrêmement drôles. Et puis il y a ce jeu de séduction ou de tension dans le couple. Vous avez toutes les deux d'ailleurs des histoires d'amour. On va pas dire qui avec quoi ou comment, mais toutes les deux vous avez une histoire d'amour. Il y a une part de
romanesque. C'est vrai.
Romanesque.
Nos deux personnages ont
des histoires compliquées parce qu'on doit, a priori, c'est comme on est poursuivi.
C'est pas le moment de tomber amoureux et s'installer.
Moi, faut pas que je m'attache.
Et moi, c'est plus. Au départ, c'est une fausse histoire d'amour. Je séduis Jonathan Cohen par intérêt.
Bah pour, et en fait,
elle est de plus en plus troublée quand même par lui et par sincérité et la manière qu'il a aussi de l'accepter et tout.
C'est gentil.
Mais il est un peu trop intense quand même.
Qui ne serait pas troublé par Jonathan Cohen? Je suis à deux doigts de.
C'est vrai.
Oh, je crains
de basculer.
Oui.
Sauf et non, et elle a quand même un mari. Elle a quand même un mari. Auquel elle est attachée, un mari en prison, mais qui est son, on pense son amour de jeunesse. Elle, ouais. Comme j'ai deux enfants dans la série de 14 et 8 ans, et donc ils se sont connus à 15-16 ans et ils les ont eu vers 17 ans. Et donc, donc on pense quand même qu'elle est un peu attachée à lui et qu'elle va pas tout envoyer.
C'est drôle, c'est rythmé, la bande-son, encore une fois, est assez impressionnante.
Et sur la représentation des hommes dans ces bandes-là, c'est très très drôle. Il y a aussi des choses qui vont à l'encontre de la représentation qu'on peut se faire du viril, du masculin,
oui.
Voilà, dans les amours qui peuvent...
Un peu d'amoureux.
Ils sont géniaux, c'est ça. Ou en prison, voilà, le rapport à la virilité, à la sexualité, où les choses peuvent tourner court, en fait. Mm-hmm. Mais ouais, c'est étonnant de regarder ça comme ça.
Créé par Karine Prévost et Olivier Rosenberg. Olivier Rosenberg qui réalise et qui joue dans la série.
Ézéchiel,
voilà, le grand Ézéchiel. Méchant.
Avec vous deux, donc Rebecca Marder et Pascal Arbiot, et également Zoé Marshall qui est impressionnante parce qu'elle est sans filtre et toutes les galères viennent d'elle. Là, je spoil immédiatement. Oui. Mais
on voit un préquel, juste du personnage de Zoé Marshall.
T'as juste envie de lui dire, mais tais-toi.
Famille, qu'on ne découvre qu'à la fin. Et
sa famille,
elle n'en dit rien, mais c'est exceptionnel.
Zoé Marshall, donc, Nedra Ayadi, Tia Delaurier, François Damien, c'est Jonathan Cohen, on l'a dit, Sami Outalbali, Jérémy Laherte, Steve Tienjeu, et Afid Benamar, entre autres, dans cette série, extrêmement bien produite aussi. On sent, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit Netflix, mais on sent qu'il y a les moyens, c'est-à-dire rien n'est fait dans la.
Mais c'est aussi.
À l'économie.
Ouais, et puis c'est aussi Olivier, parce que je sais pas si c'est tant les moyens. Enfin, maintenant, les premières saisons, c'est aussi une mise à l'épreuve. C'est aussi Olivier Rosenberg qui a rien lâché. Enfin, il était très, très attaché. Bon, dans ses délires aussi d'avoir ses voitures, ses machins. On parle là dans les grands. Voilà, ce qui peut donner l'impression que c'est hyper grosse production.
Non, il y a des
mais
cascades.
C'est même dans le jeu et tout ça. Il on faisait beaucoup d'heures sup. Il lésinait jamais. En tout cas, il n'hésitait pas à prendre le temps même à nous diriger. Moi, je pensais en allant sur une série, je me disais, oh, ça se trouve, on a le droit à une prise ou deux. Ouais. Et puis les séries, c'est un rythme fou. Et en fait, c'est ça. Il nous a repris, il faisait vraiment
attention. C'est un acteur.
Oui,
c'est
il est très sensible.
Par un acteur aussi. Ouais. Parce qu'il voit, il sent tout, il est...
Ouais, ouais.
Oui, mais alors, et comment il fait, pour être devant et derrière la caméra, avec en plus ses obligations.
Il y avait Jonathan souvent qui
venait. Il court vite, oui. Merci. Il avait un combo sans fil, ok, très bien. Ça s'appelle Les Lyonnes, c'est déjà sur Netflix. Vous pouvez vraiment le regarder en toute confiance, ça déchire.
T'inquiète, bientôt je les canne, je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton bras.
L'enchaînement est tout trouvé. Voici Tanguy Passion.
J'en peux plus de l'hygiénisme. Il faut manger sain, faire du sport.
Ah, ici, oui,
les
bah,
gens disent, non, je prends les escaliers, ça me fait bouger. Quels escaliers? Le bâtiment fait 20 mètres de haut, vous allez crever. Une personne sur deux qui prend les escaliers, on ne la revoit plus jamais. Récemment, on y a retrouvé les corps de Thierry Hazard et Joël Ursule, venus en 1992 pour un live France Bleu. Ils étaient tellement séchés qu'on les a mélangés à l'apéro avec les noix de cajou. Moi, j'ai une seule boussole dans la vie, c'est Daniel Morin. Daniel, je le connais. Il ne mange pas sainement. Hein, quand on va au troquet d'en face, moi, je prends un expresso, vous savez ce que prend Daniel, c'est véridique, un chocolat viennois avec 30 cm de chantilly. Deux de plus, c'est une épreuve de Fort Boyard et des gens se battent dedans. Pareil, est-ce que Daniel fait du sport? Non. Ok, si. Il monte sur scène, mais une fois tous les 15 jours. Parce que sa stratégie, c'est la rareté, la même technique que Mylène Farmer, mais avec des salles qui font la taille de sa baignoire à elle. Daniel mange, boit, il vit quasi allongé. À chaque fois qu'on le voit, on se dit purée, demain il est plus là. Et bah regardez, un verre de terre, vous le coupez en deux, il continue à avancer et il est tellement bien battu que même avec la moitié de son corps, il fait une taille normale. Daniel, c'est la preuve qu'on peut mener une existence déviante, une vie dégueulasse, et bien vieillir en s'amusant en plus. Il faut le voir en première partie des meetings de Sarah Gnafo, balancer des balles
sur les socialistes. Petit bilan. Moi, je fais de l'exercice, je mange équilibré, j'arrive ici le matin, j'ai toujours la forme. Eh ben, je vois bien que j'ai du mal à capter votre attention parce que c'est trop lisse. Un invité sur deux pendant ma chronique, il est sur son téléphone. Une fois, un acteur pendant la chronique a même failli aller aux toilettes. Il a pas eu le temps, il s'est pissé dessus. C'est pour ça qu'on l'invite plus, Depardieu. C'est pas du tout par rapport à ses soucis avec la justice. Hein. Attendez, je rappelle qu'il y a 11 jours, vous avez oublié mon anniversaire. Je m'en fiche, j'ai passé l'éponge. Après 11 jours, 9h et 37 minutes, tu pardonnes. Hein. Tous les gens qui ici vous ont fasciné avaient une vie dissolue. Guillermo Guise, Cominec, Pierre Lescure, toujours en pull à col roulé, tu te déguises pas en pénis si tu n'as pas de message subliminal à apporter te concernant. Je pense qu'il faut que je me fasse coacher par Béatrice Dalle. 2 jours de nuit avec elle. On démarre un samedi, j'arrive un lundi en studio sans avoir dormi. Dans l'oreillette, elle me dit, vas-y, tu les démontes. Et là, je sors les Pasturophiles, les dossiers Epstein français. Tout sera faux, hein, parce que les messages qu'on a échangés, c'est juste bonne année tous les 1er janvier. En général, vous me répondez, pardon, qui est-ce? Je n'ai pas votre numéro dans mon répertoire. Là, je suis saoulé, je réponds, c'est Bardella. C'est pour ça que ça m'a surpris que Delève réponde, ah, bonjour. Mais avec l'IA, je fabriquerai de faux SMS. Nagui dirait, c'est bien aujourd'hui qu'on fait cet aller-retour au Luxembourg. Moi, oui, j'ai pris des sacs Vuitton. Nagui, grand, j'espère. Moi, oui, il y a Carlos Ghosn dans un des sacs. Blague de 2019, hein, le temps passe, mais les auditeurs restent. Et j'ai lu une étude sur Doctissimo, le site des gens qui ont toujours peur d'avoir un cancer. En fait, c'était un rhume. Étude disant que notre espérance de vie dépend en fait à 55% de nos gènes. Le reste, c'est dû à la vie qu'on mène. Donc, ton petit thé vert le soir, les pas que tu fais sur ton appli Forme, qui t'engueule en plus si tu restes assis, ça va, Forme ? Je suis pas allé vers l'humour racé pour avoir la dépense physique d'un ouvrier du bâtiment. Eh bah, ben, tu te les gardes. L'étude ne veut pas dire qu'il faut se déchirer le cornet en faisant l'amour à des gens atteints de blénorragie sans casque sur un quad. Non, juste que pendant longtemps, on a mésestimé la génétique dans l'espérance de vie. C'est pour ça que parfois, vous avez vos intérêts sportifs, premier acheteur de quinoa des Yvelines, chez Naturalia, il y a sa photo en caisse avec écrit The Goat, toutes les fêtes des voisins, quand nous, on était sur la sangria, à dire oui, alors attention, parce qu'en fait, les fruits, c'est le plus traître. C'est ça qui retient l'alcool. Lui, tourné à la cristalline filtrée en disant, non mais demain, 6h, j'ai un trail sur un pied, 200 km aller-retour, on va en Normandie, on revient. Et finalement, parfois, lui qui s'est préservé, qui a mené une existence monacale, meurt avant. C'est injuste, mais la vie est injuste, comme le disait un jour Julien Doré alors qu'on parlait de densité capillaire. Alors oui, je me dis que quitte à aller dans le mur, il faut s'éclater. Au troquet avec Daniel, moi aussi, je prendrais le chocolat viennois avec de la gnôle dedans. Ensuite, ivre, je défoncerai le bar à coups de tête sous les yeux d'Adèle Von Rett, enfin admiratif, qui dira c'est Pastureau, c'est un artiste maudit, un écorché vif. On l'adore sur un coin. Mais vous savez quoi, tout ça, ce sont que des pensées. Parce que dans les actes, je reste cet homme modéré, le dernier centriste de France. L'autre jour, je passais devant le modem, ils ont essayé de m'en payer par surprise. Par l'arrière, j'ai hurlé, pas à cause du contact, c'est d'où la paille, mais juste pour le principe, mon corps, mon consentement. 55% de notre espérance de vie serait génétique. C'est comme une sorte de grand loto de la vie où Michel Drucker aurait tiré le gros lot. Et ça veut dire, si on réfléchit, et je sais que vous aussi vous en êtes capable, que 45% n'est pas génétique et est dû à la vie qu'on mène. Oui. Alors forcément, sur le papier, une petite comédienne dont la routine beauté est de jamais, mais jamais se lever avant 13h30.
Pourquoi
a plus de chances de vivre vieille qu'Ozzy Osbourne, le rocker, mais lui, il a quand même vécu jusqu'à 76 ans. Mmh. Puisque ses gènes ont joué pour lui. Même quand ses organes étaient noyés sous des vagues de whisky, il se motivait. Il disait, allez les gènes, on a dit, on tient, on va faire mentir les stats, non ? J'ai conscience que j'imite mal les gènes. Enfin, se battre. J'arrête cette chronique qui est un embarras suprême. Je vous embrasse et faites attention ce week-end de ne pas tout miser sur la génétique parce que on ne sait jamais. Hein.
Merci Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau qui sera à Nîmes le 6 mars.
Oui.
Les Lyonnes sur Netflix, série créée par Karine Prévost, Olivier Rosenberg, 5 femmes qui s'unissent pour sortir de la galère et c'est une comédie, c'est rythmé, il y a un véritable suspense et puis des valeurs féministes qui sont intelligemment portées à l'écran dans le discours de ces Lyonnes avec autour de la table Rebecca Marder et Pascal Arbillot qui portent cette série aux côtés de Zoé Marchand qui pour moi une révélation. Non pas que vous ne soyez pas surprenantes, mesdames, mais vous avez déjà applaudi et vu, mais Zoé est totalement dingue. Nedra Ayadi également, Tia Delaurier, entre autres, sans oublier François Damiens et Jonathan Cohen. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une tendance sur TikTok, une tendance qui consiste en fait à détailler dans une vidéo le contenu de quoi, d'après vous?
De son carnet d'adresse.
De ses ex.
Pas de ses ex,
non,
pas
le contenu de ses ex.
Non, pas le contenu. La liste, c'est le nombre de.
C'est vraiment le contenu de quelque chose. Le réfrigérateur, non. C'est un objet, absolument. Le contenu de son sac à main, c'est une trend qui s'appelle analog bag. Attention, c'est pas, justement, c'est pas ouvrir son sac à main, simplement, c'est montrer ce qu'il y a dans son sac à main qui n'est pas connecté. C'est-à-dire, c'est une façon de lutter contre, justement, notre dépendance numérique.
Tout sur TikTok.
Bah oui. Et oui, par quoi?
Je suis rassurée.
Voilà. L'idée, c'est par quoi on remplit son sac pour éviter la tentation permanente d'être sur son téléphone portable. Ça peut être des livres, des cahiers, des mots croisés, des carnets de dessin, des appareils photo argentiques.
Des biscuits.
On peut manger aussi. Oui, c'est vrai, des chewing-gums.
Il y a toujours des biscuits dans les sacs à main des filles.
Un stick, non.
Chaque fois que j'ai volé un sac à main, il y avait toujours des manger.
C'est le moment de la confession.
Oui, les vols, ça y est.
Voilà. Un stick à lèvres ou des choses comme ça, une crème pour les mains ou, je sais pas, un flingue. Simplement. L'idée, c'est de trouver des solutions pour être le plus loin possible de son téléphone, quitte à ne pas sortir avec le téléphone, le laisser et avoir de quoi ne pas se sentir en manque en permanence. Chercher
Kindle, c'est autorisé.
La liseuse, un livre. Mais sauf si elle n'est pas connectée, au pire, ça,
c'est
pas
connecté.
Alors ça marche.
C'est un écran.
Oui. Non, mais c'est pas l'écran, c'est la connexion.
Vous regardez sur TikTok comment faire pour TikTok.
Et c'est exactement ça. C'est comment on détaille dans une vidéo comment est-ce qu'on s'en sort de notre dépendance. Au numérique, on est mal, mais pourquoi? Parce qu'il y a plein d'études qui sortent et qui donnent en moyenne le temps passé sur son smartphone, et c'est vertigineux. En moyenne, c'est plus de 5 heures. Je sais pas, alors justement, l'idée c'est de vérifier avec chacune d'entre vous votre dépendance numérique. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre?
Oui, sortir votre téléphone, s'il vous plaît.
Hier, il m'a sorti 9 heures, j'ai fait, c'est pas possible.
Par jour?
Pas par jour, mais hier.
C'est pas la moyenne le quotidien.
Oui, est-ce que vous lisez autre chose que vous êtes
vos mails,
oui, vous lisez des livres ou des journaux.
Ah ben oui.
Voilà, oui, mais bon quand même. Est-ce que
oh le bon quand même qui calme.
9h c'est beaucoup.
Mais 9h c'est énorme.
Est-ce que vous dormez avec votre téléphone l'une et l'autre?
Oui. Pas avec dans le lit. Mais sur la table de
lit. La table de chevet, mais à proximité.
Oui, j'avais tenté, j'ai réussi 4 jours à.
De l'éteindre?
Non, à aller le poser dans une autre pièce et aller me coucher sans.
Il faut qu'il soit éteint parce que les ondes sont très mauvaises.
Moi j'ai peur, je sais très bien, on m'a expliqué que quand on éteint, l'alarme marche quand même, mais un jour ça n'a pas marché.
Vous n'avez pas un réveil?
Non, j'ai pas de réveil.
Ouais.
Ça y est, moi
j'ai investi dans un réveil
aussi, dans cette semaine où j'avais la plus fameuse. De téléphone. Non, j'ai pas de réveil.
Est-ce que vous allez aux toilettes avec?
S'il est éteint, l'alarme ne marche pas.
Arrêtez. Non, mais moi je
faut que ce soit sur mode avion.
Oui. Oui. Ah, j'ai pas pensé. Ah,
bah, non, sur mode avion.
Oui, il y a mode sommeil. Mais il n'est pas éteint, du coup, la nuit.
Non, il n'est pas éteint. Est-ce que vous allez aux toilettes avec?
Pardon?
C'est un signe de dépendance, ça aussi.
Oui.
Qui vous accompagne?
Bien sûr.
Ouais, tout le monde autour de la table.
Est-ce qu'il est déjà tombé dans les toilettes?
Ouais, c'est autre chose.
Comme il est sur la poche arrière.
Est-ce que au restaurant vous le sortez, vous le mettez sur la table? Est-ce qu'il y a des endroits?
Non, je m'empêche. J'ai commencé à le faire et alors je le mets en face. Je le regardais pas et en fait j'arrête de le faire depuis.
C'est vrai que c'est un manque de respect pour la personne qui est
sur la table. Je trouve ça moche en plus. Je trouve ça atroce.
Et est-ce qu'il vous arrive tout simplement de sortir sans votre téléphone?
Ben non. Oui, moi oui, parce que souvent j'oublie. Ah. J'oublie. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai un trou de lunettes sur le nez, côté gauche, parce que allongée, je.
Vous regardez votre téléphone
et que là, ma lunette est en train de me cisailler le nez.
On se demandait ce qu'était ce trou. Personne n'osait parler.
Finalement, l'analog bag est peut-être pas une si mauvaise idée. Comment est-ce qu'on essaye de trouver des solutions pour se désengager de son téléphone, le livre à la main, sortir sans, ne pas le mettre sur sa table de chevet? Il y a plein
de sens inter.
Non, mais le problème est là, c'est
la radio. La radio, franchement, ça m'empêche, moi.
Alors voilà. Théâtre, on cherche une mise en scène brillante où les personnages masculins sont poussiéreux. Au sens propre du terme, quand ils se tapent sur le corps, de la poussière émane de leur corps. Les femmes, elles, sont en lutte. Il y a sur la scène un canapé qui avale les personnages. L'histoire de deux sœurs, l'une rêve de mariage, l'autre de philosophie. Au point où on pourrait se demander qui a vraiment raison entre les deux. Est-ce que vous...
C'est pas les femmes savantes à ce moment-là.
Absolument, exactement.
Que je ne peux pas voir parce qu'il n'y a jamais de place.
Alors voilà, je suis désolée.
Moi, j'achète à chaque fois, j'essaie de me connecter le jour pour avoir la carte commune française. Et il faut faire la queue là.
On va essayer de faire quelque chose pour vous, Pascal. J'ai eu la chance de voir cette pièce la semaine dernière.
Mais tu peux m'avoir une place.
Je les femmes savantes, mise en scène par Emma Dante. C'est absolument merveilleux.
Non, mais tu vois, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est sublime.
C'est merveilleux, j'ai compris le texte pour la première fois des femmes savantes, je crois.
Ah non, mais il n'y a plus de place, c'est un cauchemar.
Avec un Laurent Stocker qui est absolument génialissime. Elsa Le Poivre qui incarne sa femme. Dans cette histoire, en fait, on peut se dire, quand on le lit à l'école, donc c'est deux sœurs, l'une veut se marier, on se dit, oh la pauvre, et l'autre baigne dans la philosophie, on se dit, génial, elle a compris l'émancipation. Et ben, c'est pas si simple que ça. Et c'est génial de se dire que c'est difficile de savoir ce que pensait Molière, c'est difficile d'être dans une forme de moralisation et de se dire que la femme au foyer face à la femme émancipée n'est pas forcément la femme heureuse n'est pas forcément celle que l'on croit.
Bah, oui.
Et c'est génial, il y a Stéphane Varupen aussi que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est Les femmes savantes. Et c'est au rond-point, comédie française hors les murs.
Hors les murs, mais ça, c'est toujours hors d'atteinte.
Les Lyonnes, ça c'est accessible.
Ça, c'est sur Netflix. Du matin,
vous avez tourné Lady Chang, le prochain film
oui,
de Xavier Jean,
j'ai adoré,
qui est juste un génie aussi de la réalisation qui avait fait Sous la scène, entre
autres. Avec les éléphants,
et Rebecca Marder, la réalisation justement. Est-ce que vous en aviez parlé à ce micro? Est-ce que vous en avez toujours envie ou pas?
Oui, très. C'est ma première envie, même avant de jouer. Mais bon, je suis lente pour l'instant. Je me suis laissée donner la béquée. Je vais y arriver un jour.
La deuxième envie est de chanter?
Ouais, ça par contre, c'est en cours. Un jour, peut-être, vous pourrez entendre quelque chose.
Ah oui.
Non, mais oui.
Il y a un album.
Ouais, on enregistre pas encore, mais on écrit avec Sébastien Wolf, qui est un des musiciens des Feu Chatterton. Ça fait 2 ans qu'on se retrouve en studio, mais comme lui, il est à la fois chercheur et physicien, il a leur groupe, ils sont en tournée, et que moi j'étais en tournage, on se retrouve un peu en morcelé comme ça, mais là on va...
Dans quel style? Dans quel, quelle est la ref?
Lui il compose, on est dans plein de styles différents et on fait des reprises aussi, 2 reprises, et après le reste c'est des chansons qu'on a inventées.
Un exemple de reprise pour comprendre justement ce que vous aimez comme musique?
Non mais pour l'instant c'est trop brouillon. Mais
c'est une reprise, je vous demande pas.
On a pour rire, et on n'est pas sûr que ça sortira, mais on a repris Ohio par Isabelle Adjani et Gainsbourg, et une chanson d'une chanteuse colombienne très latina, mais en français, donc à voir si on assume jusqu'au bout.
Parfait. Les Lyonnes à voir sur Netflix, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà désolé pour les scénaristes des 57 films, 14 courts-métrages, 27 téléfilms, 20 séries et 11 pièces déjà jouées par Pascal Herbillot, qui ont découvert qu'il avait fallu attendre Les Lyonnes pour qu'elles bingent enfin tout un scénario qui l'a emballé. Le mépris des comédiens et des comédiennes pour les petits métiers du cinéma, c'est incroyable. Désolé maintenant pour les Teletubbies qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout apprécié que Nagui associe leur talent à la défonce de fin de soirée. Enfin, Nagui, ça va pas? Non mais on réécoute.
Dinky Winky, Dinky Dinky, Dipsy, Dipsy, La La.
Oui, non, désolé, Nagui avait raison, désolé la famille Tubby. Bon, rien que de vous écouter, je vais prendre les mêmes produits qu'Emma Beaujean, donc c'est incroyable. Désolé, enfin, pour la grand-mère paternelle de Pascal Herbillot, les slips H&M, le saumon Monop, la Banque de France d'Ajaccio, bref, tout ce qui a été volé, tué ou tambouriné par cette bande de malfrats qui sert de chroniqueur et d'invité. Je vous avais prévenu, c'est très compliqué le vendredi.
Merci beaucoup Rebecca Marder, merci beaucoup Pascal Herbillot, bravo à toute l'équipe,
à
Olivier Rosenberg qui a mené ce projet avec Karine Prévost, à voir sur Netflix Les Lyonnes. Lundi, rendez-vous avec Vanessa Guide et Pierre Deladonchamp. Passez un très bon week-end sur Inter, merci.
Merci.